Allez, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Idée Noire, comme ça a été annoncé justement dans l'émission précédente.
Et peut-être, c'est possible.
J'essaye de faire des phrases pour,
ah ouais, pour
donc
commencer.
C'est l'émission Idée Noire de la coordination des groupes anarchistes animés par les militants et militantes de la CGA. Voilà, c'est parti. C'est reparti du moins. Voilà, donc, rebonsoir à toutes et à tous, l'émission Idées Noires de la coordination des groupes anarchistes, et on va commencer sans plus attendre, parce qu'on a un petit peu à la bourre, là.
Je règle mon casque, on a écourté le générique pour pouvoir commencer un peu plus tôt. On va démarrer, du coup, par des annonces. D'abord, on fait un petit bonjour, du coup, à nos camarades argentins et argentines qui nous écoutent, peut-être, ce soir.
Voilà,
on vérifiera ça. Voilà, et on va passer aux annonces. Il y en a quelques-unes. Ça démarre ce vendredi 26 janvier avec, donc, une mobilisation pour un membre de la famille de Mehdi qui est convoqué donc au tribunal. On va vous rappeler un petit peu l'histoire. Mehdi, qui c'était? Du coup, il est décédé dans la nuit du 10 au 11 décembre 2016, alors qu'il rentrait chez lui en scooter avec deux amis après avoir fêté la naissance de sa fille. Donc une voiture de police les a pris en chasse, les collant tellement que l'avant du véhicule a touché à plusieurs reprises la plaque du scooter. Donc à Langue des Russes, ça en gros est précensé, pour ceux qui connaissent là-bas, c'est l'accident mortel pour Mehdi. Ses deux amis finissent à l'hôpital. Donc voilà, on ne sait pas si qu'ils ont été parchoqués par la police. Mehdi a perdu le contrôle du scooter sous la pression policière. Bah, c'est ce que voudraient savoir les proches de Mehdi. Mais du coup, dès l'annonce de la nouvelle à la famille, les policiers donc ne sont pas sereins et présentent plusieurs versions successives. Donc la première allant jusqu'à dire que leur collègue ne poursuivait pas le scooter et qu'il s'agit d'un banal accident de la route ne nécessitant pas d'enquête particulière. Les différents commissariats refusent de prendre les plaintes des membres des familles aussi pour qu'une enquête soit ouverte. Après plusieurs refus, la gendarmerie de Givors accepte avec comme consigne du procureur de ne pas enquêter. Et donc forcément, ça finit par un non-lieu en mai 2017. Et depuis ce moment, bah, plus de nouvelles. La décision du non-lieu n'étant toujours pas notifiée, la famille ne peut pas se porter partie civile et donc avoir accès au dossier pour savoir ce qui s'est fait, notamment analyse du scooter, la voiture de police, du rapport d'autopsie, interrogatoire des différents témoins, etc., etc. Et donc du coup, pour protester contre ça, il y avait eu une marche blanche qui était organisée le 29 janvier 2017, il y a à peu près un an. Et du coup, une manif qui partait du lieu de l'accident jusqu'au commissariat de Marius Berlet. Donc il y avait 150 personnes qui avaient défilé pour exprimer leur colère et demander l'ouverture d'une enquête. Et donc un peu après la dispersion de la manif, eh ben, il y a plusieurs équipages de la BAC qui sont venus mettre un coup de pression aux derniers manifestants, et en l'occurrence les membres de la famille de Mehdi. Donc ces derniers ont eu le droit à un contrôle d'identité collective sans justification, il y a eu menaces, etc. Et donc un peu plus tard, quelques jours plus tard, du coup, elle donc, est poursuivie pour outrage à la police nationale lors de la manifestation, pour avoir scandé les slogans suivants: tout le monde déteste la police assassine, la justice acquitte, et justice pour Adama, justice pour Mehdi. Donc voilà, pour avoir scandé ces simples vérités et exigé justice avec l'ensemble des autres manifestants. Donc la belle-sœur de Mehdi est aujourd'hui poursuivie par le parquet du tribunal de Lyon. Donc il y a un rassemblement et conférence de presse devant le TGI de Lyon, donc au 67 rue de Servian dans le 3e, le 26 janvier à partir de 14h, puis un repas de soutien au comité. Un repas de soutien au comité du coup justice pour Mehdi, et ça se passera à l'atelier des canulars au 91 rue de Montesquieu. Et donc on vous tiendra au courant de ce qui s'est passé sur cette mobilisation là. La deuxième annonce, ça se passera pour ce samedi, avec une manif qui partira à 15h au départ des Brotteaux. Une manif du coup pour soutenir le canton d'Afrin, du coup qui est situé au nord de la Syrie, donc qui est occupé depuis un petit moment par les Kurdes de manière démocratique. Et du coup, l'armée turque ne veut pas entendre parler de ce canton-là, et notamment il y a tout le Rojava. Il y a eu une première mobilisation dimanche là, qui est partie de place Bellecour jusqu'à place des Terreaux. Et donc la manif du coup qui partira de place des Brotteaux à 15h. C'est très 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 important d'y être pour soutenir les camarades kurdes ici et qui sont aussi là-bas. Donc voilà, donc 15h, et on vous lira un petit texte dans l'émission du coup par rapport à ce qui se passe là-bas. Peut-être toi du coup tu veux faire la petite annonce pour...
Oui, du coup pour la soirée du 6e anniversaire de l'association Super Féministe. du coup, qui est une asso féministe basée au planning familial, il me semble, voilà, qui milite sur Lyon depuis, du coup, depuis 6 ans. Donc, ce sera le vendredi 9 février 2018 au centre LGBTI de Lyon. Donc 19 rue des Capucins, ce sera entrée prix libre, bouffe végétarienne prix libre aussi, et du coup les prix libres qui iront au bénéfice de l'association 2MSG qui lutte beaucoup aussi en ce moment pour pas mal de choses intéressantes, et ce sera aussi l'occasion du coup de se renseigner sur tous ces collectifs, asso, tout ça qui font des trucs au quotidien. Donc voilà, 9 février.
9 février au centre LGBT.
20h30.
Ouais. Et autre annonce aussi, ça se passera le samedi 3 février. Donc deux annonces ce jour-là. La première, donc, c'est une manifestation à Chambéry qui partira, je crois, au niveau de la préfecture, devant la préfecture. Donc c'est aussi pour une ouverture d'un local fasciste, voire néo-nazi, hein, par le bastion social anciennement GUD. Voilà, maintenant il existe des locaux sur Lyon, sur Strasbourg, sur Chambéry. Il y en a un prochain qui va même ouvrir sur Aix-en-Provence. Du coup, il y a une manifestation qui est organisée, voilà, par un collectif d'individus, donc voilà, de voisins, voisines, habitants de Chambéry, aussi avec des organes politiques, des organisations syndicales et des collectifs artistiques. Donc voilà, on vous donne rendez-vous là-bas parce que du coup, il y a des copains de Chambéry qui étaient descendus sur Lyon pour le rassemblement qui avait été organisé contre le pavillon noir, le local du bastion social sur Lyon. Donc voilà, donc on espère qu'il y aura du monde qui va se rendre là-bas. On en reparlera la semaine prochaine de toute manière, on en remettra une couche et on fera peut-être un point global aussi sur ce qu'est ce GUD bastion social et qu'est-ce qui se passe dans chaque ville du coup où ils sont implantés, ça pourrait être intéressant. Donc c'est 14h à Chambéry devant la préfecture. Je pense qu'il y a des covoiturages qui vont se mettre en place au niveau de Lyon, enfin sans souci. Et qu'est-ce qui se passe ? Et le même jour du coup à partir de 17h, et ça se passe sera à Saint-Étienne, donc c'est le premier Antifa Fest à Saint-Étienne, avec de 17 à 19, il me semble, une discussion sur quel antifascisme aujourd'hui. Et ensuite une soirée concert. Voilà, donc on remercie déjà nous du coup l'organisation qui souhaiterait qu'on y soit. On va essayer, mais voilà, comme il y a deux choses qui se passent en même temps sur deux villes différentes, voilà, ça va être assez compliqué de faire les deux. Mais voilà, en tout cas, les remercie déjà pour l'invitation, pour cette discussion, et puis on essaiera de faire ce qu'on peut pour éventuellement y être. Voilà, et une dernière chose pour préparer une dernière petite annonce. On prend de l'avance là aussi, mais du coup l'article est déjà sorti, donc autant en parler. Ce sera les 3 et 4 mars. Du coup, ça se passera à Bure, voilà, et à Cordoue. Nos montres contre l'Andra et son monstre. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais depuis 20 ans, donc, du coup, l'Andra colonise la Meuse pour y implanter le centre de stockage radioactif CIGEO, donc un site industriel titanesque, presque unique au monde. Le projet avance malgré des failles de sécurité énormes. Voilà, les rachats de terres étouffent les agriculteurs et l'argent qui coule à flot muselle les élus, etc., etc. Donc voilà, une nouvelle zone un petit peu à défendre après la victoire à Notre-Dame-des-Landes. Ça fait un petit moment que c'est le cas. Il y a eu des camps d'été plusieurs fois, il me semble, ces deux dernières étés là-bas. Et donc voilà, il y aura un grand week-end organisé les 3 et 4 mars. Donc voilà, il y a un petit article sur Rebellion si vous voulez en savoir plus du coup sur cette lutte-là. Et ben voilà pour les annonces.
On va rappeler aussi, enfin bon, dis-moi. On rappelle assez régulièrement que la Plume Noire, c'est 8 rue Diderot dans le 1er arrondissement de Lyon, mais que ce samedi, exceptionnellement, ben voilà, la Plume Noire sera fermée. Donc pour des questions d'organisation de notre
part. Et puis on sera à la manif aussi, et puis on sera à la manif pour 15h du coup au départ de la place des Brotteaux. On l'espère en tout cas qu'on sera, voilà, on sera un petit nombre du groupe à y être, voilà, pour soutenir, voilà, les camarades kurdes et toutes les personnes qui se battent là-bas, que ce soit contre Daesh ou contre l'état fasciste turc, et éventuellement, voilà, selon le retour de la manif, une petite ouverture enfin, mais voilà, ça c'est, il y a rien de sûr pour le moment. Donc voilà.
Très bien, c'est parfait. On a bien commencé l'émission.
Voilà, et avant de faire du coup la petite pause habituelle, on va commencer du coup par un petit article du coup qui est en lien avec le nouveau projet de loi asile-immigration que va nous sortir bientôt le gouvernement. Enfin, on sait beaucoup de choses dessus. Et du coup, un petit texte qui a été pondu par le collectif migrant auquel on fait partie.
Voilà, alors du coup, je vais vous faire la lecture de ce magnifique texte. Alors, du coup, c'est intitulé « Projet Macron sur l'immigration et l'asile, un projet non négociable, unité pour son retrait ». Alors, pour commencer, une citation de G. Noiriel, un historien. « Parler de politique d'immigration revient à parler d'immigration choisie, ou, comme on disait avant la Deuxième Guerre mondiale, d'immigration désirable », entre guillemets. Alors, depuis l'élection de Macron, la répression envers les exilés s'est considérablement renforcée, contrôle aux faciès, contrôle aux frontières et hausse des expulsions. Sous prétexte de la lutte antiterroriste, le nombre de personnes enfermées en centre de rétention administrative, CRA, a été multiplié par deux. Cela s'accompagne de la violation massive des droits des personnes privées de liberté et va de pair avec la poursuite de l'offensive contre les acquis sociaux. Le 11 janvier, le gouvernement a présenté aux associations les dispositifs essentiels de son projet de loi. Il est conforme au programme de Macron et devrait être présenté le 21 février en Conseil des ministres. Le leitmotiv d'Emmanuel Macron et de son exécutant Gérard Collomb est de mieux maîtriser les flux migratoires, entre guillemets. Il s'agit de faire du tri entre les bons, ceux qualifiés de vrais demandeurs d'asile, et la masse des mauvais désignés, migrants économiques, pour lesquels doit s'appliquer une vraie politique de reconduite aux frontières, toujours entre guillemets. Et Collomb multiplie les actions de police et les circulaires appliquant les orientations du président, avant même que le projet de loi soit présenté. C'est le cas notamment de la circulaire de décembre qui met fin à l'hébergement inconditionnel en permettant aux agents de la préfecture et de l'OFI d'aller trier les réfugiés dans les centres d'hébergement d'urgence, lesquels relèvent de l'action sociale. Il s'agit donc d'expulser davantage et mieux. Une petite révolution, limiter les arrivées en France. Le gouvernement français veut multiplier les accords bilatéraux afin de faciliter les expulsions et les conventions avec les pays tiers. Des guichets administratifs pour les demandeurs d'asile seraient ouverts dans les pays situés sur les routes de l'exil. Macron veut faire en sorte que l'on puisse donner le statut de réfugié dès le pays d'origine, entre guillemets, et en même temps être intraitable avec celles et ceux qui ne relèvent pas du droit d'asile, a-t-il répété lors de son périple en Afrique fin novembre. La France serait engagée à accueillir 4,5% des demandeurs d'asile potentiels au Niger et au Tchad. Et à Rome, Macron a rendu hommage au gouvernement italien lors du mini-sommet du sud de l'Union européenne, pardon, pour avoir limité le nombre d'entrées de migrants sur son sol grâce aux accords passés avec la Libye. Rappelons que, sous couvert d'endiguement des flux, l'Union européenne a signé des accords avec les autorités libyennes se rendant complices de l'exploitation des réfugiés et des violences qu'ils subissent dans les camps de rétention. Cette petite révolution est en réalité une véritable négation du droit d'asile. L'aide au développement devient un outil de chantage pour faire des pays tiers les gardes-frontières de la France et de l'Union européenne, laissant les candidats à l'exil aux mains de bourreaux. Voilà, on va faire la petite pause musicale.
Et puis on ira la suite ensuite.
Voilà.
Vous souhaitez une pause musicale?
Tout à fait, on l'exige même, on l'exige.
Je suis là pour ça. Et je vais vous envoyer, si j'ose dire, Anne Sylvestre qui va nous interpréter donc Xavier. Écoutez bien.
Quand il était encore bébé, Xavier, voyant sa mère qui pouponnait son cadet, voulant tout faire comme maman, tendrement, longeait et berçait son ourson sans façon. Vous voyez qu'il était bien disposé. Mais les amis, mais les parents, apprenant qu'il était tendre et maternel, lui rebelle de tomber à bord raccourci, sans merci, sur la pauvre maman tranquille, malhabile. Vous voyez qu'elle n'y avait pas pensé. Il lui prédire avec terreur, quelle horreur, qu'il allait être, paraît-il, pas viril. Dire qu'il fallait mettre aussitôt une auto dans les mains de ce petit mal anormal. Vous voyez à quoi on peut échapper. Mon Xavier n'a pas protesté, pas pleuré, a enroulé vaille que vaille la ferraille dans le mouchoir de sa maman tendrement. Puis il a fait faire dodo à l'auto. Vous voyez qu'on pouvait bien s'inquiéter. Je dois pourtant vous rassurer sur Xavier. Il a passé sans avenir son permis. Ses sentiments pour son auto, son normal, tous ne peuvent pas en dire autant. Bien souvent, vous voyez s'arranger.
Voilà, merci Anne Sylvestre, donc Idées Noires sur le 102.2 de Radio Canut, l'émission de la coordination des groupes anarchistes, et on reprend une deuxième page.
Une deuxième page. Bah, toujours la même page.
Sur le projet Asile Immigration du collectif Migrants et Migrantes.
Tout à fait. Donc, enfermer, trier, expulser plus et plus vite. Le projet de loi Macron prévoit d'étendre à 90 jours contre 45 actuellement l'allongement de l'enfermement en centre de rétention, de durcir les assignations à résidence. Et les différents lieux de privation de liberté sont un pilier de la politique migratoire. Macron veut expulser tous les déboutés de l'asile, faisant totalement fi des risques encourus par les exilés et renvoyer tous les exilés qualifiés de migrants économiques. Pour cet objectif, différentes mesures sont annoncées. Accélérer les procédures. L'accélération de la procédure d'asile est une clé du plan Macron. L'accélération de la procédure de demande d'asile, la réduction du délai de recours devant la CNADA pénalisera les demandeurs d'asile. Et dans certains cas, les mesures concernant les déboutés, perte de l'allocation, éloignement, pourraient être appliquées sans attendre le recours éventuel. Règlement de Dublin. Le projet prévoit que lors du dépôt de demande d'asile, un demandeur pourra être arrêté et renvoyé vers le pays dans lequel il est entré en Europe, notamment Italie ou Grèce. Il s'agit donc de durcir l'application du règlement de Dublin. Pays sûr. Ah,
parce que du coup, avant, ce qu'il faut préciser, c'est que les personnes qui dépendaient de Dublin, pouvaient faire la demande du coup au pays dans lequel ils avaient été pris en premier, hein, si c'est l'Italie par exemple, de faire la demande à l'Italie, de savoir si l'Italie acceptait qu'ils fassent leur demande d'asile en France. Si l'Italie acceptait, ils pouvaient faire un dossier en France. S'ils refusaient, il fallait qu'ils retournent en Italie. Là, c'est direct, en fait, il n'y a même plus de demande de fait, on te renvoie directement dans le pays où tu as été pris en premier, en fait.
Voilà. Pays sûr. Bruxelles est en train de négocier au sein du Conseil européen un règlement qui permettrait à un État de rejeter une demande d'asile si le demandeur avait transité par un pays non membre de l'Union européenne considéré comme pays tiers sûr. Cette mesure s'appliquera directement dans les législations nationales sans nécessité de transposition. Il s'agit donc de généraliser l'accord Union européenne-Turquie qui permet à la Grèce de renvoyer systématiquement en Turquie les demandeurs d'asile syriens et afghans. La France pourrait ainsi renvoyer au Maroc, en Algérie, en Tunisie, l'immense majorité des exilés subsahariens et même dans certaines régions de la Libye, car la définition de pays sûr pourrait être élargie à certaines zones sûres, entre guillemets, d'un pays en guerre.
Voilà ce qu'ils avaient fait, mais l'Allemagne avait rebroussé chemin. Ils avaient fait ça avec l'Afghanistan. Donc ils avaient projeté de renvoyer des demandeurs d'asile dont l'asile avait été refusé en Afghanistan, parce que soi-disant maintenant le pays était sûr. Et devant le tollé que ça avait provoqué, ils avaient du coup renoncé. Donc voilà, ça n'irait pas jusque-là, mais il y a énormément de pays, enfin au moins de personnes qui sont en danger dans les pays qu'ils ont quittés. Et le fait de les renvoyer, quand ils retournent à la case départ, normalement, c'est directement la prison en fait quand ils arrivent à l'aéroport.
Voilà, super. Donc mieux accueillir et mieux intégrer. Les mesures prévues pour améliorer les conditions d'intégration et d'accueil ne concerneront que la minorité des demandeurs d'asile qui obtiendront l'asile ou la protection subsidiaire. Quant à l'augmentation des places d'hébergement annoncées, elle sera insuffisante. Le gouvernement table sur l'expulsion de ceux qui ont laissé des empreintes ailleurs en Europe ou ont été déboutés de l'asile. Il s'agit d'attirer les talents et compétences, entre guillemets, selon les demandes patronales, extension du passeport talent à de nouvelles catégories, transposition de la directive étudiants-chercheurs. Pour cela, on cherchera à améliorer la maîtrise du français et l'insertion professionnelle. Il ne s'agit donc pas de mieux accueillir et de mieux instruire les demandes, mais d'abord de dissuader, d'accroître la répression et la chasse aux exilés. Au-delà, c'est toutes les libertés qui sont menacées. Ce projet et cette politique xénophobe vont de pair avec les attaques contre tous les acquis sociaux, code du travail, retraite, sécurité sociale. Elle vise aussi à introduire la division dans les rangs des travailleurs et des jeunes pour empêcher ou limiter les mobilisations contre les offensives antisociales. Seule la mobilisation unie peut imposer que ce projet ne voit pas le jour. Donc voilà.
Ouais. Et du coup, ce qui va sûrement se passer maintenant, c'est qu'il va certainement y avoir une réunion publique bientôt organisée par le collectif Migrants Migrantes, dont on fait partie. Réunion publique, du coup, qui va permettre d'expliquer très clairement ce texte, comment ça petit à petit, on en sait de plus en plus, même s'il est présenté au Conseil des ministres là, au début février, je crois, on sait déjà à peu près ce qu'il va y avoir dedans. Même s'ils ont déjà reculé sur certains points, notamment, voilà, et encore, ils peuvent revenir à la charge sur ces, cette volonté de, d'amener la police dans les centres d'hébergement d'urgence, pardon. Même s'ils ont reculé pour le moment, ils peuvent très bien revenir dessus. Il y a tout ce qui est aussi aide sociale à l'enfance qu'ils veulent diviser en deux, avec une aide sociale à l'enfance pour les Français et... autre chose léguée à des associations pour les enfants étrangers, donc ce qui reviendrait à couper vraiment à considérer un an, pardon, ne plus considérer les enfants comme tous les mêmes, mais du coup de vraiment les diviser en deux catégories et avec un truc au rabais forcément pour les enfants étrangers. Donc voilà, donc il y aura une réunion publique pour expliquer tout ça avec une avocate et voilà, ce qui permettrait après peut-être d'embrayer sur une nouvelle mobilisation de rue contre ce projet de loi qu'on espère, une mobilisation qu'on espère nationale. Donc voilà.
On va passer aux luttes sociales.
Voilà, vous êtes tous impatients et impatientes. Hein, il est déjà 20h24.
J'espère, et j'espère si ça peut amener beaucoup de choses d'informations et de la manière de, donc on va... de procéder. C'est toujours ça de prix.
Voilà. Hein, voilà. On va jouer au petit jeu hebdomadaire géographique. Savoir situer les bleds que tu vas sortir. Voilà, on est...
Eh bien, on va jouer les tours.
On en a déjà parlé souvent, ça je vois.
Oui, bah, j'ai déjà fait un petit truc la semaine là-bas, dernière là-dessus, mais là on a eu un petit peu plus d'informations. Et il s'agit évidemment de Tupperware, hein. Donc des avancées, comme on dit, dans le métier de futur sans emploi. La boutique, donc, on le sait, fermera hermétiquement dans quelques semaines. Le boulot donc a repris à jouer les tours, c'est le 18-01, accord signé syndicat patronat. Outre les mesures habituelles, pardon, de plan social arraché avec la sueur, eh bien, il y a eu des primes de licenciement qui ont été obtenues et des supralégales. Alors, il va falloir se dépêcher parce que je crois qu'à un moment ou un autre, ça va disparaître du paysage, tout ça. Alors, selon l'ancienneté, ben, chacune touchera 30 000 à 60 000 euros pour 1 800 euros de salaire mensuel net, qui, selon les gens qui comptent bien, ça fera de 35 000 à 90 000 euros par tête de travailleurs, de travailleuses. Les jours grévés payés seront payés, donc, puisque la grève avait démarré le 2 janvier. Pour 235 personnes, quand même, c'est pas rien. Alors, fermeture annoncée en octobre, cette fermeture avait été annoncée en octobre 2017, pour une surcapacité industrielle du réseau européen de production et un ralentissement des ventes en France. Hein, ça paye pas de mine, hein. Selon donc la direction, bien sûr. Alors, selon les commentaires, ben, c'est un accord très bien fait. Les salariés sont satisfaits de l'accord, du montant des primes, du plan de formation qui est aussi très bien fait. Tout est très bien fait. En fait, pourquoi on s'embête? Pourquoi on s'ennuie avec des luttes et des machins? Mais on connaît pas en fait les termes de l'accord qui ont été tenus secrets. Ils sont restés donc au frigo dans un ustensile hermétique. En somme, tout est bien, qui finit bien. Rappelez quand même qu'au début du conflit, on parlait de mépris patronal quand même. Et avec l'amiral CGT, la intersyndicale avait opté pour une négociation du plan social sans le moindre débrayage, ni action, au moins jusqu'à la fin de décembre, puisque le 2-01, je rappelle que c'était la grève et les indemnités qui représentent, en fait, sur les chiffres que je viens de citer, de 24 à 36 mois de salaire. Et après, faudra se débrouiller. Alors, il n'y a pas de bol quand on est... c'est pas de bol, en fait, quand on est habitante à jouer les tours. Parce que je rappellerai quand même qu'en 2014, c'est l'usine Michelin qui fermait en partie. Le dernier carré, c'est pour 2019. En 2014, 420 à 450 départs anticipés, 250 déplacés sur d'autres sites Michelin, 20 départs libres, 200 postes conservés jusqu'en 2019. Donc, et là aussi, les accords avaient été approuvés par 85% des concernés, donc des salariés en difficulté. 5 mois de conflit, 3 mois de négociation, des primes allant de 30 000 et à plus, et des indemnités, donc en plus des indemnités légales. Voilà comment ça se passe.
À Beaumont maintenant, dans le Puy-de-Dôme, eh bien, c'est une centaine d'employés de la clinique privée La Châtaigneraie, qui est quand même forte de 450 salariés, avec une victoire après une grève obligée. C'était le 16 janvier, avec les revendications suivantes, et on peut dire altruistes, puisque c'était une augmentation des bas salaires, une augmentation de la prime d'assiduité, ça c'est pour la carotte, le maintien de la prime des transports, et le lendemain, bah, c'était dans la poche pour les grévistes, puisque la prime transport passait de 48 euros à 200 euros à l'année. La prime était assujettie, c'est assez drôle, enfin du moins calculée, en fonction des prix des soins. Hein, c'est original, quoi, je dirais, quoi. La direction a donc renoncé, évidemment, à faire de s'opposer donc aux revendications. Alors, les bas salaires sont augmentés, l'assiduité aussi, de 25 à 35 euros. Et c'est la CGT qui a conduit le bal. À Mulhouse, dans le Haut-Rhin, ben, c'est une centrale d'achat qui est en grève. C'est celle de l'enseigne U, le 17 janvier. Et plus particulièrement les produits frais. La direction ne supporte pas la vue de délégués syndicaux, surtout quand ils contestent. Et c'est pas tout, puisqu'elle ne respecte pas le protocole de fin de conflit, d'un conflit qui s'est déroulé en 2017, en ne payant pas les heures grévées. Et donc voilà. Et ça a fini par une grève aussi. À Rennes, bah, c'est une colère de parents d'élèves, cette fois, d'un quartier populaire, le quartier Villejean, à Rennes. Ils étaient accompagnés d'enseignants, d'enseignantes, des élèves également, une cinquantaine de personnes au total qui ont manifesté le 19 janvier devant l'inspection académique. Alors figurez-vous que le conseil départemental a prévu la fermeture du collège donc de Malifeu. Alors le résultat, bah, c'est que le seul collège restant dans les alentours, quoi, ben, il accueillerait 650 élèves et son cortège, évidemment, de conditions de travail dégueulasses pour les élèves, les profs, les personnels. Donc, des conditions, évidemment, dégradées. Alors, à Rennes, encore une fois, ben, c'est des facteurs, cette fois.
Toute la semaine.
On n'en finit pas avec les facteurs, les factrices, la CGT, Sud, PTT, enfin, en grève, c'était le 12 janvier, réorganisation en cours, ça n'enchante personne, évidemment, 40 personnes ont suivi, donc sur 214 employés et 3 bureaux et 300 et centres qui seront touchés. Les cadres cassent le mouvement, à la demande évidemment de la direction. À partir du 23, ben, les horaires des tournées changeront. Ben, ont changé d'ailleurs, puisqu'on est le 24 aujourd'hui. Le panorama des préposés, donc de la poste. Et la pause méridienne, cette fameuse pause méridienne. Et évidemment, de nouveaux services, comme garder les enfants. C'est à peine caricatural ce que je dis, hein, évidemment, puisque c'est bien d'autres choses hein, qui ont été mises sur le tapis, là, enfin sur la table des négociations, je suppose. Il y a eu un rassemblement donc le 23 janvier ils étaient dans leur troisième semaine de lutte hein, quand même. Hein. À Auch, dans le Gers, ben, c'est à la mi-janvier avec une grève générale reconductible des personnels du service des urgences du centre hospitalier. Alors selon les grévistes, l'ARS n'a pas tenu les promesses faites en négociation, puisqu'il y a un manque criant de médecins, il y en a 9 au lieu de 23 nécessaires. Alors attente pour les patients évidemment de l'ordre de 10 heures, mais sauvé, je dirais, puisque l'ARS est consciente. Hein, tout va bien. À Limoges maintenant, bah, c'était le 16 janvier avec une grève rare, puisqu'il s'agit des téléconseillers de la caisse primaire d'assurance maladie. 20 personnes pour des conditions de travail, changement de planning, pression psychologique, hein, selon la CGT, sur les 48 employés, pour 400 000 appels à l'année, hein, pour l'année 2017 par exemple, et 4 minutes 20 par appel, hein, on ne fait pas plus, hein, il faut débiter, donc 4 minutes 20 par appel, pas plus, pause restreinte, absentéisme, ben c'est le quotidien des téléconseillers, des téléconseillères. Alors il est exigé l'égalité salariale également ici, ça tiraille donc entre le syndicat, évidemment les syndicats et la direction. Il y a des débrayages en place de 55 minutes et évidemment c'est le face-à-face contestataire, voilà. pour cette première page de lutte.
Voilà, moi je vais enchaîner avec deux autres luttes, une qui a lieu actuellement et une qui aura lieu la semaine prochaine. Vous avez sûrement entendu parler de ce qui se passe aux urgences de Lyon Sud, voilà, qui sont en grève depuis lundi, voilà, et qui sont en grève a priori pour une semaine et voir un peu plus si rien ne bouge. Donc elle a commencé lundi la grève, donc le personnel il est débordé, il est épuisé, ce personnel paramédical, et il réclame du coup en premier lieu plus de lits, plus de personnel, et dénonce une situation devenue dangereuse pour les malades comme pour les employés. Donc vous savez du coup que le personnel est en grève et est réquisitionné, hein, très certainement, donc ils sont juste avec un sparadrap ou avec marqué personnel en grève sur leur blouse, et ils continuent à travailler, mais du coup comme pour beaucoup de monde, et c'est un fait à noter parce qu'à Lyon Sud il y avait peu de mobilisation jusqu'à présent malgré tous les problèmes qu'il pouvait y avoir, c'est que du coup tous les employés paramédicaux des urgences de Lyon Sud ont répondu à l'appel, à savoir les 41 infirmiers et infirmières, les 29 aides-soignantes et aides-soignantes, et les 7 ASH, agents des services hospitaliers. Les médecins ont pour l'instant exprimé leur solidarité, entre guillemets, mais on espère qu'il y aura plus, bien sûr. Et les grévistes reconnaissent, qu'ils forment une équipe très soudée. Et surtout que le métier d'urgentiste, enfin, de travailler dans les urgences, ils ont choisi ce métier. Beaucoup revendiquent même une vraie passion pour la diversité du service, pour l'adrénaline, etc. Ils ne se sont donc pas retrouvés là par hasard. Mais du coup, il y a deux mois, les choses ont commencé à devenir vraiment très éprouvantes. Et il y a eu des tentatives pour alerter la direction d'abord, puis un préavis de grève déposé la semaine dernière, et donc aujourd'hui, la grève reconductible comme seul moyen d'expression. D'après eux, cette crise n'est due à aucune épidémie ou pic hivernal, c'est vraiment des conditions de travail qui dénoncent. Un point de non-retour, une situation que le personnel raconte avoir vu progressivement empirer dans ce service qui était construit pour 60 patients au départ, et qui en accueille parfois aujourd'hui jusqu'à 120 par jour. Donc voilà, avec manque de lits, manque de personnel, etc. Il y a du coup quelqu'un qui témoigne. Hein. Parfois, on en vient à jouer à Tetris avec les patients. On ne peut pas le mettre dans un lit, alors on le met dans un brancard. Parfois, pour libérer les pompiers, on regarde si on peut le mettre dans un fauteuil. Donc voilà, on manque de tout, de lit, de brancard, même de draps, de gants de toilette, etc., etc. Un autre témoignage, l'autre jour, j'étais seul à la régulation. C'est le poste du coup du premier interlocuteur que le patient rencontre là, à l'accueil, quand ils arrivent aux urgences. On doit donc encaisser déjà toute la colère des gens par rapport à l'attente. Ce jour-là, la personne est arrivée en même temps qu'une personne âgée qui avait un problème hématologique, là avec sa famille, et les pompiers avec une personne qui avait fait un malaise. Il n'y avait qu'un box, donc elle a dû choisir entre les deux et se fier donc à son instinct. J'ai pris la personne amenée par les pompiers et 10 minutes plus tard, elle faisait un arrêt cardiaque. Si j'avais pris l'autre ou s'il n'y avait pas eu de place du tout, comme ça arrive souvent, que serait-il arrivé? Donc voilà, en arrivant aux urgences, elle dit « je m'attendais un peu à ça, mais à ce point-là, aujourd'hui, je suis dégoûté du métier, mais je sais même pas où je pourrais aller pour trouver des conditions de travail meilleures parce que c'est partout pareil. » Donc on va suivre ce qui se passe. Il y a encore plus de témoignages dans l'article hein, trouvé sur Rue 89 Lyon. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Mais pour ceux qui connaissent des gens qui travaillent, infirmiers, infirmières, brancardiers ou ASH, les conditions de travail dans les hôpitaux publics, c'est la misère. Enfin, du coup, c'est aussi une volonté politique pour privatiser de plus en plus le soin. Et que du coup, ces personnes méritent le respect et surtout une solidarité par rapport à leur mouvement de grève. Donc n'hésitez pas, si vous passez par là-bas cette semaine, d'aller les encourager, en tout cas dans leur lutte et dans leurs revendications. C'est très important qu'ils et elles aient du soutien. Et le deuxième appel, parce que là aussi, on le sait, c'est vraiment le bordel aussi, c'est dans les EHPAD. C'est une journée nationale de grève et d'action. Ça se passera le 30 janvier. Donc EHPAD, c'est établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Le contexte dans les établissements, est dramatique, la situation est alarmante, la pénibilité au travail engendre de la souffrance. Donc les personnels à bout de souffle n'en peuvent plus. Il y aura un rassemblement à 11h devant la préfecture du Rhône, du coup, ce 30 janvier. Et si vous êtes plutôt du côté de Villefranche, ce sera à 17h devant la sous-préfecture. Ils expliquent pourquoi ils se mettent en grève, les glissements de tâches qui s'intensifient, le nombre des accidents du travail est en augmentation avec les maladies professionnelles, les invalidités dues au manque d'effectifs sont en recrudescence. Et cette situation touche tous les établissements. Donc là, c'est la CGT, mais il y a aussi du coup d'autres syndicats qui sont en lutte, qui seront en lutte le 30 janvier. Partout du coup où les syndicats bossent, où sont présents, il existe des coupes budgétaires et des restrictions qui impactent la prise en charge des résidents. Tout ça est dénoncé bien sûr depuis un moment. Les situations professionnelles dans lesquelles nous nous trouvons sont inadmissibles. Donc par exemple, il faut en 15 minutes lever un résident, lui faire une toilette sommaire, l'habiller, lui faire prendre son petit déjeuner et ses médicaments, refaire le lit et on passe à un autre résident. Donc 15 minutes. Vous imaginez l'humanité là-dedans qu'il y a. Donc c'est une maltraitance, non pas des salariés, mais c'est bien précisé, une maltraitance institutionnel et en plus qui coûte aux résidents et à leurs familles plusieurs milliers d'euros par mois, entre 2000 et 5000 euros dans les EHPAD. Ouais. Voilà. Donc par la mobilisation du 30 janvier, donc les salariés veulent participer à faire découvrir ce scandale à la France entière. Les politiques le savent déjà parce que c'est une volonté politique. Depuis 2009, c'est passé un petit peu dans le privé, le financement de tous ces établissements-là. Et donc, qui dit privé, dit lucratif. Et donc, du coup, qui fait des économies sur tout ce qu'ils peuvent. Et donc, du coup, il faut exiger qu'ils prennent leurs responsabilités. Donc, cette situation touche 693 000 personnes âgées qui vivent en établissement, dont 573 000 qui sont en EHPAD, où il est difficile de trouver des places. On rajoute bien sûr ça des personnes aussi en situation de handicap qui, vieillissant, du coup, n'ont plus de place dans d'autres établissements. Et si elles nécessitent une prise en charge médicale, elles vont aussi dans des EHPAD. Et là, le coût n'est pas possible, en fait, pour ces personnes-là, pour très peu de personnes. Donc, tous ensemble, faut revendiquer, donc, le respect de la prise en charge des personnes âgées et des recrutements en urgence de personnel qualifié. Voilà. Le ratio personnel-patient est actuellement de 0,5 à 0,6. Alors qu'en Allemagne, il est de 1,2. Voilà. Vu qu'on prend toujours le modèle sur l'Allemagne, autant le faire aussi là, sur les trucs qui sont bien là-bas. Donc, voilà. Donc, le 30 janvier, il faudrait soutenir ça. Il y a des préavis de grève un peu dans pas mal de secteurs pour aller soutenir tout ce personnel qui est en souffrance. Donc, très voilà. Bien. On fait une deuxième petite pause, ouais.
Petite musique, on va écouter à nouveau Anne Sylvestre qui nous interprète là. C'est chouette, c'est sans ironie.
Non, du coup, non.
Évidemment.
C'est chouette, c'est comme une rage de dents quand ça s'arrête. C'est la meule à chagrin qui a fait son chemin. C'est chouette, c'est comme d'avoir retrouvé ses lunettes. Comme si la douleur m'était tombée du cœur. Pourtant, je croyais bien en avoir pour longtemps. J'avais barricadé de la cave au grenier. Pourtant, ils avaient tout balayé en partant, ne laissant que la clé sous la porte à côté. C'est chouette, comme plus de coups de marteau sur la tête. C'est la meule à soucis qui a tout radouci. C'est chouette, comme un brochet qui n'aurait plus d'arête. Comme si les regrets avaient tiré un trait. J'avais pris mes quartiers d'hiver à tout jamais. Dépeuplé l'aquarium, jeté les géraniums. J'avais distribué mes rêves à qui voulait, décidé de n'avoir plus une ombre d'espoir. C'est chouette, comme de ne pas arriver après la fête. C'est l'usine à bonheur qui ne compte pas ses heures. C'est chouette, c'est comme une accalmie dans la tempête. Un chemin forestier quand il fait chaud l'été. Et si le vent ne venait plus souffler ici, si on pouvait enfin cultiver son jardin. Et si les idées noires se taisaient aussi, on pourrait s'esquiver sur la pointe des pieds. C'est chouette, c'est comme une rage de dents quand ça s'arrête.
Et re-bienvenue sur Idées Noires, l'émission de la coordination des groupes anarchistes sur Radio Canaille au 102.2. Et voilà, et on reprend avec une deuxième page de lutte sociale.
Voilà, la seconde page donc, de cette soirée avec le Haillan, c'est dans le département 33 qui est... La Gironde, merci. Entreprise TCI, TCB, voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs, mais qui fait plutôt dans le traitement des chèques. Une semaine de grève au 17 janvier, en fait, ils étaient en grève depuis le 3 janvier, avec le syndicat CGT pour une augmentation générale de 100 euros minimum. Et des tickets restaurants à 7,80 euros, prime de participation également, aux bénéfices. La reconnaissance de l'ancienneté, l'évolution de carrière, les grilles indiciaires, enfin et tout, l'augmentation de la prime de productivité de 160 à 200 euros par mois.
30 personnes ont grévé, c'est-à-dire 70 à 100%, même dans certains établissements. TCI, TCB, ben c'est le groupe TCI, hein, pour vous informer. 65 millions distribués d'euros, hein, distribués aux actionnaires dans les chiffres de l'année 2017. C'est pas mal. À Villette-de-Vienne, maintenant, c'est dans l'Isère, avec un mouvement de grève nationale chez le pétrolier Trapil, qui fait dans la gestion de pipeline. Pipeline. Donc aux commandes, ici c'est la CGT encore, avec comme à Fos-sur-Mer d'ailleurs et à Poissy, puisque c'est national, entre 35 et 45% de grévistes, avec une pression aussi sur les négociations salariales, hein, les fameuses NAO, et primes diverses conjoncturelles à 1500 euros net, une participation aux bénéfices égalitaires. Alors répartition égalitaire également des augmentations individuelles, 80 euros comme augmentation plancher, parce que la maison Trapil réalise des bénéfices, 40 millions, et ils dénoncent également dans leurs négociations, enfin dans les revendications, plutôt les conditions de travail dues à l'effectif diminué. Des accords signés avec trois syndicats selon la direction, mais la CGT fait bien sûr la mauvaise tête. À Annecy, maintenant, ce sont les services municipaux qui sont touchés par des restructurations, ici aussi. 800 salariés, personnel municipal, en rassemblement le 11 janvier devant la mairie pour protester. Organisation qui regroupera 6 communes, dont Annecy. Alors, le résultat de cela, ce sont les horaires, les congés, rémunérations qui sont toutes et tous revues et corrigées, plutôt bien sûr au désavantage des salariés. Les élus disent harmonisation, voilà, un nivellement par le bas des 10 avantages sociaux. Une délégation FO, CFDT, UDSA et Autonome a mené le débat, entrevue avec le maire. À l'issue des discussions, les grévistes ont décidé de ne pas reconduire le mouvement, puisque là aussi, apparemment, il y a eu des avancées. Le Havre, c'est les personnels, des caisses primaires d'allocation maladie qui dénoncent leurs conditions de travail qui se dégradent. Les agents comme les assurés sociaux. Donc voilà, le 16 janvier, reconduction du mouvement, dénonce la fermeture de centres, effectifs en baisse, 55 minutes de débrayage pour endiguer l'hémorragie causée par une restructuration qui allonge le traitement des dossiers à 35 jours. Et selon les commentaires des personnels à ce sujet, l'ambiance dans les centres est vraiment pourrie quand les assurés attendent des heures. L'accès aux bornes informatiques sont réduits. Les dossiers non consultables par les assurés le jour même. Donc tout va bien dans les restructurations aujourd'hui en France. À la Roche de Glune.
Désolé.
La Roche de Glune, c'est dans la Drôme. Et c'était le 16 janvier avec la grande maison Trigano MDC. Une trentaine d'ouvriers sur 60 en grève pour l'obtention d'un 13e mois. Alors en fait, ici, certains salariés touchent la prime et pas les autres. Alors, donc les 30 en question, évidemment, qui se sont mis à grève. Et ça traîne, c'est une vieille revendication déjà de 2010, voire même de 1998, pour vous dire que ça traîne. Quand les syndicats et la direction avaient décidé d'intégrer la prime en question au salaire, prime de vacances, afin d'éviter une délocalisation à l'époque. Depuis, les augmentations salariales n'ont pas fait florès. Le mouvement risque d'impacter donc les autres sites. La direction a proposé royalement 45 euros bruts mensuels. Et chez Trigano, on ne fait pas que dans les vacances, le Club Med et tout ça, et on produit également du matériel pour les collectivités. Voilà. À Toulouse, maintenant, pour terminer cette deuxième page, avec une grève à l'université Jean Jaurès, Jean Jaurès, donc une histoire de fusion avec l'université Paul Sabatier de l'INSA et de l'INP. C'est une fusion intégration dont personne ne veut, selon l'intersyndicale FSU, CGT, Sud et FO, et prise évidemment comme une trahison. La grève a été interrompue pour les vacances et les examens pour reprendre le 22 janvier qui a réuni les étudiants, les étudiantes et tous les personnels. L'intersyndicale où s'est joint les syndicats en plus, alors AGEMP, APIEM et Solidaires étudiants, étudiantes, UET et UNEF, a refusé de siéger lors du conseil d'administration qui devait statuer sur le budget de 2018. Eh bien, le quorum n'ayant pas été atteint, pas de vote. En décembre 2017, 62% des enseignants, enseignantes et 94% des étudiants et étudiantes ont voté contre le projet d'université fédérale pour obtenir tout simplement un label initiative d'excellence. Ouais. Ceux qui ont fréquenté les universités, ce n'est pas mon cas, comprendront évidemment tout ce qui se passe. Voilà. Alors, il n'y a pas que, évidemment, qu'à Toulouse, hein, il doit y avoir certainement ailleurs.
Oui, je pense ailleurs.
Voilà.
Voilà.
Merci.
On va enchaîner avec une petite page internationale et donc on va reparler du coup de la mobilisation qui aura lieu ce samedi à 15h au départ de la place des Brotteaux, du coup, pour soutenir la commune d'Afrin, voilà, contre l'armée turque. Voilà, donc on va vous lire un communiqué du coup qui nous vient du bataillon international de libération, canton de Cizre, donc du coup qui est plutôt à l'est d'Afrin et qui a été écrit le 22 janvier 2018. Attaque de la Turquie contre Afrin, une solidarité internationale indispensable. Depuis le 21 janvier. La Turquie procède à une invasion du canton d'Afrin, aidée par des groupes se revendiquant de l'armée syrienne libre, pour certains salafistes et ou pan-turcs. Ainsi, la population de cette enclave de la Fédération démocratique de la Syrie du Nord subit aujourd'hui les bombardements de l'aviation turque et résiste aux attaques terrestres avec ses forces militaires que sont les YPG et les YPJ, ainsi que la milice des conscrits, les HXP. La communauté internationale réagit jusqu'alors timidement à cette attaque qui menace la révolution qui a lieu aujourd'hui au nord de la Syrie. La Russie, jusqu'alors alliée de la FDSN, donc cette Fédération démocratique de la Syrie du Nord, dans sa lutte contre l'État islamique, commence à trahir son alliance avec celle-ci. Les États-Unis et les autres pays occidentaux ne réagissent que par des communiqués de presse. Cette trahison, les camarades ici l'avaient prédit. S'étant donné ses alliés par nécessité stratégique, alors qu'ils et qu'elles n'avaient alors pas le choix, entouré par de nombreux ennemis. De plus, rien n'est sûr quant au maintien de la neutralité du régime de Bachar el-Assad. C'est encore une preuve que nous n'avons rien à attendre des pays capitalistes et impérialistes qui n'agissent au Moyen-Orient que pour leur intérêt économique et politique. Cet événement est d'une importance capitale dans l'histoire de la révolution aujourd'hui à ses débuts et dans le soutien que peut apporter le mouvement révolutionnaire international. En effet, nous faisons face ici à une attaque des forces armées bien mieux équipées que la nôtre et peut-être supérieure en nombre. Pour rappel, l'armée turque est la deuxième plus importante de l'OTAN et la neuvième du monde, comprenant plus de 500 000 soldats et plus de 100 000 paramilitaires. Les États impérialistes, pour sauvegarder leur intérêt dans la région, peuvent se décider à contrer plus activement cette attaque, mais rien ne nous l'affirme. S'il y a bien un moment où nous avons besoin des militantes et des militants révolutionnaires, c'est donc aujourd'hui. Pour notre part, nous, volontaires révolutionnaires internationaux, internationales, sommes prêts et prêtes à lutter aux côtés de nos camarades, des YPG et des YPJ, pour défendre la révolution. En France ou ailleurs, vous avez les possibilités de nous aider, en partageant les informations de ce qui se passe actuellement en Syrie, en participant aux manifestations de solidarité à nos c'est notamment en France par les pages Facebook qui existent, un Kurdistan au féminin, Kurdistan News, l'actualité du Kurdistan et celle du CDFKF, Conseil démocratique kurde en France, il y a aussi Kédistan, les Yedégué, etc. En organisant des actions de soutien, notamment contre les ambassades de la Turquie, ce qui va être le cas du coup samedi après-midi sur Lyon, puisque la manifestation ira sûrement par là-bas, en popularisant l'expérience de la jeune révolution aujourd'hui en cours, en nous rejoignant pour combattre les dictatures qui menacent cette révolution. Vive la résistance d'Afrin, vive la lutte antifasciste et anti-impérialiste, vive la révolution internationale. Donc voilà pour cette déclaration du bataillon international de libération et on vous tiendra au courant du coup toutes les semaines nous parce que du coup cette émission là suivez aussi notre page réseau social parce que du coup on mettra aussi des infos sur ce qui se passe là-bas et voilà, venez bien à cette manifestation de samedi après-midi, c'est hyper important de montrer notre solidarité partout en France et en Europe pour ceux qui combattent là-bas qui ont combattu Daesh et qui combattent maintenant l'armée turque.
Une précision là, sur les acronymes, la YDP, machin.
Oui, donc c'est les forces du coup.
On prononce un peu.
Oui, oui. Et du coup, on fera peut-être un point la semaine prochaine global sur, du coup, sur tout le Rojava, comment cette région s'est formée, comment ça se passe là-bas, etc.
Je parlais sur un micro qui était fermé.
Non, mais du coup, j'ai entendu.
T'as entendu, toi?
Oui, non, sur les YPG, les IPG.
Je pense que je parle assez fort que tout le monde a entendu.
Oui, donc c'est les bataillons kurdes.
Des précisions, parce que.
Voilà, les bataillons kurdes mixtes et non mixtes, du coup, voilà, qui existent là-bas.
Ok, bah du coup on va enchaîner avec un petit point sur la situation en Grèce, parce que bon, on en reparle pas souvent maintenant que le gros du lot était passé il y a 2 ans là pendant notre travail, mais bon, ça continue quoi, il se passe toujours des trucs là-bas et pas que des trucs marrants. Donc là en fait ça fait quelques jours, une semaine un peu plus, je sais plus, qu'on démarrait des négociations entre la Grèce et la Macédoine sur un vieux conflit autour du nom Macédoine que les deux pays revendiquent. Donc la Grèce refuse de reconnaître le pays Macédoine comme tel parce que la région du nord de la Grèce, Thessalonique, s'appelle aussi Macédoine. Bref, un conflit entre deux nationalismes. Là-bas, du coup, les camarades anarchistes, antifascistes et tout ont fait un bon travail de mobilisation pendant toute la semaine, avec un rassemblement d'infos, une manif à moto et voiture, et un rassemblement antinationaliste. Alors que les patriotes, donc patriotes c'est un terme large, il n'y a pas que des fachos, il y a pas mal de gens aussi qui se revendiquent patriotes. Donc bref, tous ces gens avaient une grosse manifestation en même temps. Donc a priori, les patriotes, entre guillemets, étaient très nombreux, entre 15 000 et 50 000, dont quelques centaines de fachos qui étaient un peu sur le mode du combat, donc masqués, armés, etc. La ville était remplie de drapeaux grecs sur pattes, donc voilà, ça donne une petite idée sympathique. Donc du coup, du côté des camarades antifascistes, antinationalistes, anarchistes, etc., il y avait environ 300 ou 400 personnes à vue de nez, peut-être un petit peu plus. C'est plutôt bien passé pendant le rassemblement, hormis quelques provocateurs nationalistes qui se sont fait virer assez rapidement, et une charge de police, alors que les fascistes remontaient vers le rassemblement des camarades et que la tension augmentait. Finalement, tout le monde est remonté vers les squats du centre, qui étaient protégés. Et c'est seulement après que, du coup, on apprend la nouvelle que plusieurs centres sociaux de l'est de la ville ont subi des attaques. Quelqu'un dit Fanette, je ne sais pas si on prononce comme ça, parlait d'une attaque sur place, a confirmé. Le centre social anarchiste Soleio a été attaqué également, mais les camarades à l'intérieur ont pu repousser les fachos. En revanche, le squat Libertasia a été cramé de façon importante et a priori, il n'y avait pas de camarades à l'intérieur.
Ouais. Il y a pas mal d'images, donc vous allez sur, je crois, Indymedia en Grèce, etc. Pas mal d'images du coup de ce squat qui crame, donc voilà. Et on vous tiendra au courant parce que généralement en Grèce, quand il y a des attaques fascistes, derrière il y a une réplique quasi immédiate, en tout cas bien préparée des camarades, et donc on essaiera de se tenir informé pour vous dire aussi comment ça s'est passé, parce que généralement ça reste jamais impuni ce genre d'attaque. Voilà.
Voilà, donc voilà pour la Grèce. Vu qu'il reste 5 minutes, on peut faire un petit retour des annonces.
Comme tu veux, ou alors on garde le...
Trop long.
Ouais, c'est un peu trop long, on gardera. Donc on avait un petit article trouvé sur, du coup, le journal de la CNT là, sur ce qui se passe au Bangladesh, mais du coup on le fera peut-être la semaine prochaine. Par rapport aux annonces, donc je vous avais dit que ce vendredi, du coup, il va y avoir, du coup, une mobilisation pour un membre de la famille de Mehdi, donc du coup qui avait été tué par la police, on peut le dire, hein, du coup, suite à une poursuite sur un scooter, et du coup parce que, du coup, sa belle-sœur est convoquée au tribunal, donc ce vendredi, parce que durant la manifestation, une marche blanche pour Mehdi qui avait eu lieu l'année dernière au mois de janvier, les slogans suivants avaient été entonnés: tout le monde déteste la police assassine, la justice acquitte, et justice pour Adama, justice pour Mehdi. Slogan qu'on a tous chanté, voilà. Et donc là, ça a été ciblé pour mettre la pression sur la famille. Donc la belle-sœur de Mehdi, du coup, est convoquée au commissariat. Donc il y a une demande de soutien qui est appelée. Donc c'est à 14h devant le TGI de Lyon, 67 rue Servant, et ensuite le soir il y aura un repas de soutien au comité. Voilà, c'est un peu la même technique qui est utilisée tout le temps par les flics, une fois que violence qui entraîne la mort, à savoir c'est une pression de fou sur les familles pour éviter, du coup, qu'il y ait recherche, qu'il y ait enquête, et que la famille lâche le morceau au bout d'un moment. C'était le cas, du coup, pour Adama Traoré, quand on voit tout ce qui arrive à la famille, à ses frères, à sa sœur, tout ça, les arrestations qu'il y a eu, les pressions quasi quotidiennes qu'il y a. C'était le cas aussi pour Wissam El Amni, pour sa famille à Clermont-Ferrand, avec des rassemblements qui sont interdits, des pressions des flics, etc. Donc c'est important d'y être en soutien, voilà, pour montrer qu'on est solidaire face à cette répression. Il y a aussi, du coup, vous avez parlé du samedi 3 février avec deux événements hors de Lyon, donc à Chambéry, avec une manifestation contre l'ouverture du local du GUD Bastion Social, donc le 3 février à 14h devant la préfecture. Le même jour, à partir de 17h sur Saint-Étienne, le premier Antifa Fest, avec une discussion sur quel antifascisme aujourd'hui, suivi d'une soirée et des concerts. Et on vous rappelle, suite à l'article qu'on a lu tout à l'heure, la manifestation de ce samedi 15h au départ de la place d'Herbeto, en solidarité avec le canton d'Afrine qui est attaqué par l'armée turque. On essaiera de faire un dossier complet aussi là-dessus, parce que ça nécessite quand même plus d'explications, effectivement, et surtout de vous montrer la propagande qu'il y a à l'intérieur de la Turquie, exercée par Erdogan, avec des articles mensongers, mais il s'en fout, il contrôle toute la presse et tous les médias, donc pour lui, il n'y a pas de problème. Mais vraiment pour montrer que, voilà, que ce pays s'installe depuis quelques temps maintenant dans une véritable dictature, et que pour lui, il a quand même des rêves de sultan, cet Erdogan, et il rêve du coup d'agrandir son empire et d'aller un peu plus loin, et surtout de ne laisser aucune miette, forcément, au peuple kurde, voilà, qu'il déteste par-dessus tout. Et la répression va être féroce à l'intérieur de la Turquie, et les attaques sont déjà assez féroces aussi sur ce canton. Et son but, c'est pas de s'arrêter au canton d'Afrine, hein. Ça veut dire que c'est la première zone qu'il voudrait installer, mais après c'est d'aller plus à l'est et de petit à petit annexer tous les cantons du Rojava, notamment Kobané, etc. Voilà. Et donc pour l'instant, donc aucune réaction internationale ou très peu, et donc du coup on va suivre ça de près, et on sera présent du coup dans la rue pour soutenir les camarades. C'est important, voilà, de faire parler de ça, parce que la presse, du coup, on parle plutôt maintenant, continue à parler des camarades kurdes comme des terroristes. Et il va falloir vraiment que ça change et que le discours change par rapport à ça, quoi.
Voilà, et du coup, dernière petite annonce. Alors, c'est un peu décousu au niveau de la chronologie, on est désolé pour les rappels, mais
ah oui, c'est vrai,
le 9 février, du coup, c'est un vendredi, il y aura la boum du 6e anniversaire de Super Féministe qui se passera au centre LGBTI de Lyon à 20h30, 19 rue des Capucins. Et puis voilà, avec entrée prix libre, bouffe prix libre et tout le tralala. Donc voilà, ce sera tout pour ce soir.
Bon, bah juste rappeler aussi que donc, comme en début d'émission, que la Plume Noire, ce samedi, ne sera pas ouverte. La librairie ne sera pas ouverte pour des raisons d'organisation de notre part. Et
de soutien, voilà. Manifestation aussi. Vous pouvez toujours nous rejoindre là-bas.
Rejoignez-nous là-bas, parce que après on remontera de toute façon, voilà, par notre local. Et donc du coup, vous pourrez venir du coup discuter avec nous sur la situation en Syrie, en Turquie ou d'autres choses, voilà, si vous le souhaitez.
Et on vous laisse avec le générique et puis la lumière du frigo tout de suite après. Voilà, bonsoir, à mercredi.
Bonsoir.